Les regards de Léa, tome 1, épisode 2. Résumé de l'épisode précédent. Antoine est attablé au bar Le Baricou, à Paris. C'est sa taverne, son refuge. Il est absorbé dans la lecture de son carnet où il découvre toutes les notes prises dans les semaines qui viennent de passer. Il y raconte son adolescence, sa fascination pour le regard des femmes. La dernière, surnommé Rouge, l'a infiniment marqué au temps de son adolescence. Pour la première fois avec elle, il s'est aventuré dans la durée du regard.
Oublie Rouge, mais pas sa leçon. À 18 ans, il est temps d'inventer son monde. J'ai conçu Premier Regard. Il est la porte d'entrée pour ma rencontre avec une femme d'exception, puisque habité par la même certitude. Nous saurons nous reconnaître à l'instant, sans mot dire. Cet échange devra suffire. Le prolonger identifiera alors un code tacite. Le soutenir équivaudra à une déclaration commune et instantanée, réalisant ainsi l'utopie d'un idéal égalitaire, sans quiproquo. Il me semble alors que c'est l'exact contraire de la séduction par le verbe. Celui-ci me rejoindra plus tard, plus loin, peut-être. Oui, j'ai bien réfléchi et décide que son imperfection est trop flagrante. Lui accorder le premier rôle, c'est l'échec à coup sûr. En tout cas, le risque est trop important. Le premier mot, avant même d'évoquer le désir, trimballe toutes les lourdeurs de l'hypocrisie agencée. Il deviendra, je le pressens, dès l'instant où j'en userai, la source où s'abreuvera l'ambiguïté du « nous », notre binôme fatal. Car c'est « je », le petit mâle homo sapiens, qui, par culture, doit prendre l'initiative, assumer le risque du mal dire, du mauvais moment, du « je suis désolé si tu as cru que » et se livrer nu à l'acceptation ou au refus. Puis meurt la spontanéité. Parler, c'est déjà calculer. Choisir le bon verbe pour accéder à la bonne réaction de l'autre. Une guerre des rôles. Premier choix. Je ou tu? Sujet ou objet? Je suis la demande. Elle est l'offre. Ce sont les fondements du rite de la séduction au sein de mon espèce. Une geste multimillénaire, codifiée, pour une issue si fréquente qu'elle s'est inscrite à jamais dans notre langue familière. Se prendre un râteau. À 18 ans, ça révolte. Je me sens en droit de renacler et d'inventer autre chose. Mais puis-je m'opposer à ce passage sous les fourches codines des stratégies convenues? Qu'importe, je me repais de la griserie du défi. Et je le conquiers. Avec cette certitude chevillée dans les yeux, la vue est l'unique sens permettant l'échange instantané d'un message, en tout lieu et temps, par les deux seules personnes qui en usent. Le saisissement qui en résulte devient une flamme secrète et puissante. Je conçois une préhistoire où la parole, les concepts, tout ça vagissait à peine. Je suis le dernier maillon de cette longue évolution au cours de laquelle s'est perdu ce sens premier, ce pouvoir instinctif de la reconnaissance par l'échange visuel. Altéré, il survit encore, éclaireur de nos consciences. Antoine part en campagne. Il va restituer à premier regard ses lettres de noblesse. Dernière année de lycée, ultime rentrée, un automne en terrasse. Sur la grande place, le central jette ses tables en formica tachées sur le trottoir. Ce bar abrite nos petites nostalgies estivales. Depuis nos chaises adossées à de hautes vitres sales, derrière lesquelles on discerne les turfistes alignés le long du zinc en fumée, cendres tordues à la commissure des lèvres et arpentant leur destin d'un index noirci par le passage sur l'encre de page 10 fois annotée, nous tentons, retors, sous la surveillance irritée du serveur, de faire durer nos cafés à 1 franc et prolonger ainsi la vie de notre maigre argent de poche. Vertèbres cervicales en rotation permanente, nous retenons nos souffles à chaque silhouette féminine qui tourne le coin de la rue ou traverse l'esplanade dans notre direction. Dans quelques secondes, nous chercherons à les happer, en leur jetant nos sourires en appât. Certaines esquisseront un plissement de bouche, échappées, comme leur rouge aux joues, puis forceront l'allure pour mieux s'évader, satisfaites et flattées. Mais ce jeu de poltrons groupés ne me convient pas. Fuyant, j'essaye d'élaguer mes peurs. Je m'éclipse alors et pars dénicher cette unique rencontre, son regard parmi la foule. Souvent, je passe, et parfois, les yeux vêtus de lumière, je muguette de pupille en pupille. J'attouche, j'effleure, et je goûte leur regard, gardien de la cité interdite. Elle, au loin, cliquetant sur le marbre du conservatoire et s'avançant vers moi, droite, inaltérable, de s'être si bien levée, elle consomme son destin quotidien avec sérénité. Va-t-elle rester sur son char et dévorer l'horizon sans fléchir? Ou bien celle-ci, à quelques mètres, sur le banc de bois devant la grille du parc, s'y courbait vers ses cahiers à force de leur intenter une mission en complicité? Elle chuterait si elle ne devait relever la tête pour m'observer chaque fois que mon regard s'absente ailleurs. Va-t-elle retenir sa fuite? Et cette autre, croisée tous les matins, le long de la grande volée de marche du palais de justice, à la descente du bus. Voici 15 jours que, après 2 secondes exactement, ses pupilles se désagrègent en s'éparpillant au sol. Qu'attend-elle? Quelle espèce de courage ne franchit jamais l'enveloppe de ses bras, les humeurs de sa langue? D'autres m'offrent la courte escale de leur regard, assez longue pour entr'ouvrir l'esprit, mais suffisamment brève pour éviter le désir. Je me laisse porter, rebondis, pupille au sein d'une chorégraphie entêtante. Ballottée, désarticulée, je me transforme en clandestin itinérant le long des frontières de leurs âmes, passant sans retenue d'iris en iris. Ces regards m'émeuvent, je voyage. Noirs orages, lacs de neige, coulées de lave, oriflammes claquant au vent. Il y a aussi ceux qui, à peine effleurés, entrent en torture. Alors ils s'évadent, et je frissonne lorsque d'autres m'enlacent de leur désespérance. Enfin, il y a ceux qui s'aventurent. Pour eux, j'ai balisé le temps de premier regard. Entrée libre jusqu'à 2 secondes. On joue. Premier passage, dans 3 secondes, nous sommes là, ensemble. Tu continues? Ah, tu vois, c'est amusant. D'accord, allons-y. Ligne droite jusqu'à la prochaine porte. Distance, 5 secondes. Là, regarde, nous y sommes. Comment te sens-tu? Troublé, n'est-ce pas? Eh oui, ton cœur accélère, mais le mien aussi. Tu as besoin de courage? Tiens, je t'en offre. Oh, tu veux déjà me quitter? Tu as peur? Et je le vois dans ton regard. Tu me demandes où je t'emmène? Mais là-bas, jusqu'aux 10 secondes. C'est une ligne droite. On file ensemble. 5 minuscules secondes de plus. Fais-moi confiance. Envole-toi avec moi. Écoute le bonheur d'explorer cet espace où ne règne que des sensations que nous allons partager. Frissonnons de cet élan inconnu. Goûtons l'euphorie du vide, le vertige de l'abandon, à deux, yeux dans les yeux. Viens, je t'en prie. Aie confiance. Voyageons sans les mots. Comment? Impossible. Je vais vouloir coucher avec toi. Ah, c'est donc ça. Mais tu n'as rien compris. Et ce que je vais penser de toi? Bah écoute, ce n'est pas grave, baisse les yeux et n'en parlons plus. Suivante. Retour à l'entrée. Bonjour et bienvenue, je vous en prie, embarquez pour ce si long petit voyage. 10 secondes, mademoiselle. 3 étapes, 3 portes, 3 mondes en 10 secondes. Ma quête se magnifie tout au long de l'hiver. 10 était le temps de rouge, son offrande. Oui, je crois que c'était ça. J'ai arpenté 1000 fois le souvenir du même trottoir. Oui, je comptais, à force de ne rien savoir faire d'autre. Rouge m'abandonnait juste avant. Elle savait, que cet horizon devait survivre. Elle savait qu'après elle, toujours je tenterais d'y attirer des inconnus. Elle savait qu'il deviendrait le temps, mon temps, sublime et partagé. Hélas, sans elle, je ne dépasse jamais la 6e seconde. À ce stade, le trouble me jette pourtant son air brûlant au visage. Et je ne suis pas le seul. Les filles de mon âge avec qui je tente l'expérience multiplient les fuites craintives. J'observe leurs pas nerveux, leurs détours de tête ou leurs retours hésitants et peureux dans les 10 minutes qui succèdent à notre échange. Et pour tout cela, je sais que nous sommes deux à espérer soulever ce voile lourd qui pèse sur l'interdit. Mais j'insiste, qu'importe le dénouement, je prends le goût des armes par le seul vertige de l'odeur de la poudre. Cette quête va devenir thébaïque tant son addiction me domine. Cet hiver-là s'écoule, ivre. La rentrée des vacances de Pâques apporte aux abords du lycée en provenance des parcs de la ville la senteur mêlée des platanes et des lilas. Elle tournoie dans l'air et vient enlacer nos jambes buissonnières pour les attirer vers de fautives escapades. Mais quelle sublime impression de liberté, Dopaminée, opiacée, ma griserie se décuple, ainsi qu'un curieux sentiment d'être ailleurs et un autre, sans jamais atteindre le but recherché. Et je conviens d'une évidence, je n'accéderai jamais à la 10e seconde. Il existe un cimetière des utopies adolescentes. Autour de moi, un bilan édifiant s'annonce. Pendant que certains continuent leur collection de kisses, de pelles, de flirts et d'autres préliminaires, attendant que se déclenche sans doute une autorisation d'aller plus loin, venue d'on sait où, d'autres se trouvent affectés de l'air jovialement confiant que seul confère la réalisation du passage à l'acte. J'accumule un retard considérable. Oui, car il s'agit bien d'une course vers un but dont je n'ai pas anticipé l'importance, le bac. Non, je ne parle pas de la respectable échéance, mais du vrai bac, celui qui nous barre l'horizon en nous imposant cette implacable issue, le but après copulation. Car au sein des codes non édictés, mais réels, de nos idéologies tribales, tout se résume à l'unique et fatale question. Parviendrons-nous, puceaux, à l'université ? L'ambiance laborieuse de nos classes terminales fond sous les chaleurs d'une flambée libidinale empressée. Un élan irrépressible se propage et porte la majorité d'entre nous à suivre le mouvement. Les sections scientifiques semblant moins touchées, les littéraires sont à la corde alors que les sections D, sciences naturelles, tiennent la tête. C'est un tournoi aux proportions endémiques. Il se déroule sous une pluie d'heures de retenue et accompagné du regard morne et fatigué de Madame la proviseure qui, atterrée, voit surgir ce terme démoniaque tant redouté, anticipé par elle. Il y a déjà 7 ans, lors de la première bataille perdue contre mini-jupes, blouses, boutonnières et les soldats genoux. Ma quête solitaire d'un regard unique, issu d'un pur hasard et provoquant un état de conscience hors du commun, s'effondre. J'abandonne cette voie sacrée et rallie mes camarades qui, rassurés, m'accueillent dans leur rang. Mon verbe sort du coma. « Ce n'est pas si mal, finalement », me dis-je en refermant le lourd ventail de la résidence où se prélasse encore celle qui, pour la première fois, m'a confié l'intense secret de son intimité. Elle s'est livrée facilement, après quelques brefs assauts d'une puissance décuplée par la parole. Nouvelle complice à qui je dois rendre des honneurs évidents. Antoine leva un peu les yeux, s'absorba dans la contemplation d'une fente dans le revêtement de la table. Elle passait sous le carnet. Il se souvenait mieux à présent. Et il aimait l'époque de ce printemps un peu dingue. Oui, il l'aimait. Jusqu'à ce jour, sa mémoire avait plutôt entretenu l'idée d'un piteux échouage dont il n'avait cessé de se moquer. Alors qu'à l'évidence, la lecture du carnet démontrait que, dopé par sa longue rétention, le verbe libéré avait acquis une force décuplée. C'est lui qui avait ouvert la voie aux conquêtes adultes, puis un jour à celle de sa femme. Son couple et sa famille étaient nés du verbe. Oh non, il ne devait pas en rire, comme il s'en était délecté. Comme il avait aimé cette vie, ses attaches tenaces, rassurantes, comme il les avait cajolées, entretenues, comme il pensait en faisant ça être protégé de tout et de toutes, d'elle surtout. Celle dont il n'avait cessé depuis sa décision de fonder un foyer, de fuir le regard. Jusqu'à cette soirée. Le carnet l'évoquait à peine. Une seule page blanche avec tracé en haut, en grosses lettres, bâton, après Cabourg. Ah oui, Cabourg, bien sûr. Revoici Cabourg. La fente sur la table ressemblait en se concentrant, en oubliant le monde autour, en ne voyant plus qu'elle, à un petit canyon.
Je pourrais le survoler en avion, un tout petit avion.
Cabourg. Un souvenir un peu aigre, un peu honteux, mais qui retrouvait maintenant sa juste place sur le fil de cette histoire. C'était 5 années après son mariage, un soir pluvieux d'automne dans la salle d'un restaurant à touristes. Une pluie lourde crépitait sur les trottoirs. À travers les baies, on avait aperçu un arc-en-ciel s'élever au-dessus des toits de la ville. Puis, il s'était dilué. Un brouhaha de voix et de rires remplissait l'établissement. Elle dînait en groupe à une table voisine de l'autre côté de la salle. Lui, en famille et entre amis. Il y avait eu un premier regard, un effleurement d'abord, puis l'envie d'y revenir. Une fois, deux fois, et soudain, ses yeux noirs qui résistent, son sourire impossible à ignorer, qui murmure « D'accord, tu es entré, j'ai envie de me rendre, prends-moi. » Lui avait pensé « Ça va être un ravage, fuis, fuis, n'y touche pas, n'y touche plus. » Alors pour se détacher, il avait tenté une dérive du regard vers le fond de la salle, derrière elle, vers le comptoir où s'affairaient les serveurs sous un fronton garni d'un drap lourd et rouge. Il ondulait mollement, effleuré par la brise du soir. Un soulagement, trop court, Un torrent l'avait emporté. Fais-le, fais-le. C'est elle, tu vois bien. Mais qui, elle? Ah, merde. Fais pas semblant, Antoine. Tu n'as jamais renoncé, tu le sais bien. Jamais. Mais qui parle? Et leur silence est changé, planté comme un glaive dans le brouhaha de la salle. Il s'était levé. Déconne pas. S'apostrophant tout en invoquant une vague excuse à l'attention de sa compagne, de Suzy, sa fille, et de ses amis. C'était la fin du repas. Tous avaient bu. Il aurait lancé « Il paraît que le Nil devient vert. Je vais aller vérifier ça en arrière-cuisine. » Tout le monde s'en serait foutu. Il s'était dit « C'est fou ce que le déni de méfiance permet d'accomplir. » Se haïssant pour cette pensée, il avait traversé la salle, franchi la quinzaine de mètres qui les séparaient. C'était le trajet pour le jardin. Il avait tenté de retrouver le regard de cette femme, se disant que, oui, cette magie, il la désirait. 8 secondes tout à l'heure. Certes, ce n'était pas encore ça, mais peut-être avait-il compté trop vite. Elle, gênée, avait détourné la tête. Lui, confus, avait bifurqué vers le comptoir au dernier instant, rejoint l'arrière-cour pour griller une cigarette. Et puis rien. Elle n'était pas venue. De toutes les façons, ça n'aurait plus fonctionné. Ce n'était pas ça, le deal. À son retour à table, il s'était mis à rire beaucoup, aux blagues, aux allusions, à rien de précis, et plus qu'à l'accoutumée. Suzy était venue se pelotonner sur ses genoux. Il adorait ça, plus que toutes les autres tendresses. « Tu ris fort ce soir, papa », avait-elle protesté. Sa femme avait posé une main sur la table, un peu chatte, effleurant la sienne. Elle lui avait souri, sibylline. S'était-elle méfiée? Il s'était senti rassuré, mais d'une manière qu'il n'aimait pas, un peu sotte. Un peu piteuse.
Alors j'aurais recommencé à compter ce jour-là? À moins qu'une des aïeules de la tribu ait compté à ma place. Oui, c'est cela. On est en plein délire. Enfin. Au point où j'en suis.
Antoine jeta un œil vers le bar. Jacques s'affairait autour du lave-verre. Le comptoir était déserté pour un court instant. Antoine tapota la page ouverte. Son regard revint à l'éraflure sur la table. Il l'admettait. La suite n'avait plus ressemblé qu'à de grands ou petits cabours. Mais constaté ici, par cette lecture, qu'il était le jouet d'influences quasi occultes, apparemment impossibles à maîtriser, quelle nauséeuse impression. Elle l'avait donc poussé à renouer toujours, avec le même enjeu. L'abandonnant à chaque fois, car ses tentatives avaient tout avorté, empreint de douloureuses hontes, ligotées à des regrets sans recours, qu'il les avait détestées, secrète et ressassée, les pénibles évocations de tous ses renoncements sans panache. Il s'était rassuré à chaque fois, se disant qu'il fallait éviter le pire, sombrer, mettre son couple en danger. Oui, bien sûr, c'était ça l'idée. Et puis, tant qu'il s'agissait d'un regard, ce pouvait être vécu par sa femme. Si un jour elle le surprenait, comme un petit jeu toléré. « Ma chérie, l'infidélité ce n'est pas ça, tu plaisantes. J'aime regarder les femmes, c'est tout, et rien d'autre. » Alors pour ne pas risquer cette scène qui, bien sûr, le hantait, combien de fois avait-il marché tête droite? Combien de fois avait-il gardé le nez plongé dans un journal ou un livre? Accédant toujours à une sorte de sursis dont il ressortait, là, aussi meurtri. Quelle lâcheté! Il s'était accusé souvent. En même temps qu'une autre question s'était installée plus pressante d'année en année. Comment faire de la fidélité à sa famille un vrai plaisir si on ne ressent que des regrets ravivés à chaque renoncement? Sans se rendre compte que chacun d'eux, justement, chargeait le suivant du poids de son propre cadavre. Il s'était raisonné, s'avouant que peut-être ce jeu, ce pari du premier regard avec une inconnue, serait, s'il le gagnait un jour, confronté aux mêmes limites. Car s'il aboutissait, atteignait et dépassait ses 10 secondes, alors quoi? Après lui, après le trouble immense, après les conséquences terribles, puisqu'il eût été incapable de mentir à la vie, à sa femme. Après la séparation, donc, envisagée avec effroi, que se passerait-il? Oui, qu'adviendrait-il de la magie avec elle, la nouvelle campagne née de ce miracle? La quête cesserait-elle? Répondre oui le terrifiait. Il accédait au mystère et conquérait son Graal, mais il perdait tout. Répondre non le rendait inquiet d'une nostalgie maussade. Cette quête ne serait qu'un mythe, bien sûr, un seuil maintenu assez élevé pour n'être jamais franchi. Un fantasme nécessairement inaccompli. Alors ne pas répondre l'avait rassuré quelque temps. Il avait continué. Puis il avait tenté un lâcher-prise, par lassitude, par petite lâcheté tout de même, s'avouait-il en quittant la contemplation de la fente de la table, comme on abandonne un chien vieillissant qui commence à puer et indispose les proches. Au bout du compte, il avait décidé, se disant que la détermination brutale s'avérait plus facile, plus de regard avec une inconnue, jamais. Cela n'avait rien arrangé, rien modifié, rien évité. Car avec les ans, le regard d'Antoine s'était altéré, devenu autre, oui, incisif dans l'instant, juste dans sa manière d'atteindre au cœur le visage et son sens, attirant par la douleur de son toucher. Et les regards des femmes ne l'avaient pas lâché, tendre, attachant, sollicitant même, souvent surpris de ses évitements peureux, un peu trop forcés pour ne pas être suspects. C'est qu'il peinait. Il avait continué à lutter, parfois lâche, parfois sincère, lentement il avait sombré. Sa résolution avait dégénéré, s'était atrophiée. Antoine jeta un œil vers la rue. La terrasse du Baricou lui sembla soudain se muer en cage de verre. Oui, son couple, se disait-il, drapé en habit de perdition. Par instant, il l'avait presque contemplé, tant ses entrées en scène et son jeu lui avaient paru d'une tragique et monumentale beauté par son acharnement à résister à cette obsession du regard. Antoine et sa femme s'étaient quittés, un jour de pluie, loin, très loin de chez eux, un de ces endroits où même la solitude perd son sens. Une séparation d'une lenteur accablante. Sur une ancienne piste de corail qui menait au quai de Vaitap, alors qu'ils attendaient sans cesse la pluie, torrent tropical qui allait encore accoucher d'un petit arc-en-ciel, ça, ils le savaient, ce serait là, à 30 pas du cocotier choisi parmi les voûtes courbées sur le bas-côté, parce qu'il leur avait paru plus accueillant. Ils avaient levé la tête ensemble. Au-dessus des palmes hautes, l'eau striait le ciel boursouflé, chutait sur les feuilles et ricochait devant eux en centaines de fontaines inexorables. Elle se rejoignait à terre, lourde comme avide d'être bu, creusant dans la boue brune du fossé d'innombrables et furtives coupelles. Lui les avait contemplées, écoutant sa femme prononcer les mots d'adieu. « Je ne t'ai jamais trompée, tu le sais, jamais. » « Tu plaisantes, Antoine? Je n'en peux plus de toutes ces femmes que tu essayes de pénétrer. Je n'ai pas d'autre mot. Tout le temps, même en ma présence, c'est trop. J'ai peur. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais un jour tu me quitteras. Je le sais. Alors c'est fini. » Et après les avoir endiguées, peut-être méprisées, Antoine avait lâché ses larmes, gêné de leur existence et agacé aussi de la question idiote qui l'avait obsédé sur l'instant. Quitterait-il la brie du même pas? Ou bien l'un d'eux partirait-il seul sous la pluie? Cette sale plainte insolite l'avait irrité. Puis l'orage s'était renforcé. Sa femme s'était éloignée. À 30 pas, l'arc-en-ciel était paru dans la bruine ouatée qui flottait en suspension sous les palmes. Antoine avait fixé des gouttes épaisses qui s'écrasaient au sol, chacune avec un bruit mat et mou. Il avait pensé furtivement tout le temps des milliers de percussions qui érodent la terre. Et, gonflant sa poitrine longuement, il avait inhalé le chaud remugle de la bourbe repue. L'émotion qui s'écoulait était devenue peu à peu indolore, comme si elle avait dû s'abandonner, là, sans recours, laissant surnager une nouvelle question. Pourquoi se souvenir soudain de cette autre pluie, ailleurs, des années plus tôt, à Cabourg? Il continua la lecture. Note du 6 octobre, 23h30. Je relis, toujours ce style. Pourquoi tu ne jettes pas les mots comme ils viennent? Encore ordonné. Bah, faudra revoir peut-être, faudra... Et puis non, c'est comme ça. Je vais arrêter de boire. Les comprimés aussi, je vais arrêter. C'est dangereux. J'avais tout oublié. Comment est-ce possible? Je veux dire, renier à ce point nos croyances. Maintenant c'est clair, si on peut dire. Note du 9 octobre. 2h45. Non, rien à dire, à part que ta femme a bien fait de partir. Note du 14 octobre, 3h30. Et si elle aussi, cette femme, dans le restaurant de Cabourg, s'était levée, qu'aurions-nous fait? Aurions-nous abandonné nos vies pour ce regard? Là, tout de suite, devant tous les autres, qui fait ça? Mais qui sait faire ça? Ou bien aurions-nous banalement tenté d'échanger nos numéros de téléphone? Note du 15 octobre, 22h45. Rien à dire, marre. Note du 21 octobre, round midnight. Et voilà, Chiara et Flora sur cette plage de Vaitap. ou la fin du parcours. Double regard, double peine. De toutes les façons, elle ou une autre, cela devait arriver. Cette tribu qui t'habite devait achever. Toute une vie dédiée à la recherche du regard unique. Pour rien. Que dalle. Makash. Nikevo. Niente. Rien de rien. C'est naze. Note du 21 octobre. 9h. L'automne s'installe. Demain, je vais terminer. Je viens de relire mon carnet. Et que se serait-il passé si à 18 ans, j'avais continué mon pari? Quel autre homme serais-je devenu?
39 ans, seul après Vaitap.
Tôt ce dimanche matin, les quais de Papeete sont déserts. Le Eva s'est terminé en milieu de nuit. Les trucks, Brinkball et Queen sous leurs essieux fatigués, en relâchant leur fumée sur les tiarets survivants aux façades. Suspendus dans l'air moite, les relents de vieilles bières se mêlent encore à ceux de l'eau huileuse du bassin des yachts. Attablés à la terrasse du rétro, de rares clients flamardent en matant les rondeurs souveraines qui passent en ondulant. Même noyé dans un soda trop sucré, le whisky est âpre à cette heure. Mais il m'aide à une immersion amnésique et accompagne ma débauche obstinée.
Femme dorée, peau facile, femme, homme, au déhanchement trop gracile, tout existe ici.
Servi par une chaleur qui semble arracher aux plus avachis l'espérance d'un renouveau qui étirera leur vie. C'est si aisé, après tout pourquoi pas, loin de mon mythique Paris empoussiéré. Je peux donc dévaler sans rougir les pentes abruptes d'une luxure enivrée. Va Antoine, vis et perds-toi. Mais au cœur d'un royaume où je m'imaginais baroudeur, je me retrouve petit excursionniste désorienté, fourvoyé sur le territoire d'un empire où pourtant la parole fut reine. Ici survit son dernier esclave, le regard. Inlassable déesse, les femmes d'ici en jouent, le maîtrisent, l'utilisent. Sous leur joug, il n'est plus qu'un bout en train, dressé à échauffer l'âme pour mieux servir le corps. Je suis en perdition, accroché à quelques strophes expiatoires. Ramassé sur mes pages, qui s'étalent sur la table, je ressens très tard une présence. Tiens, c'est une popa, ça change. Quand s'est-elle assise? Ah si, je m'en souviens, au moment où le serveur m'apportait mon 5e verre. Beauté commune, sans détresse, magnifiquement banale, j'ai glissé sur son regard. Pas envie de le retenir, tout est mort. Mais elle a dû prendre ça comme une incursion. C'en était une, c'est vrai, mais sans le désir. Elle doit attendre un rendez-vous. Allez Antoine, pousse tes mots. Mon euphorie alcoolisée me pousse à une prose brutale. Elle s'arrache à moi sans que j'en garde le souvenir de la minute qui suit son dépôt sur le papier. J'écris, je poétise. Et comme aurait dit l'autre, c'est marrant cette manie qu'on les paumait de faire des phrases. Mais enfin, j'en extirpe une racine de cette coca pacifique et je la chique. C'est comme toutes les terrasses, elles existent pour mater ou boire. Boire et mater, mater en buvant. Boire en matant et se battre en mourant. D'avoir trop maté les femmes d'albâtre ou d'ivoire qui allument en ondulant. Rondes comme des toupies, elles oscillent au-dessus de leur conce en pensée, au hasard des pavés, posant leur regard sur un horizon d'afromanie. Elles capturent nos stress à peine le temps d'un confesse. Il faudrait s'ériger sous le vent de leur parfum, transporter nos sièges et nos guéridons, courir, empresser et se poser un peu plus loin. L'air de rien, boucanier, magicien, l'œil torve et la trique embusquée. Elles finiraient bien par s'arrêter. Et nous, roucoulant nos salades, alors que nous ne pensons qu'à les écarteler, nous les pousserons dans l'ombre vertueuse de leur parure tachée. Et pour se mirer dans le ciel, les yeux révulsés, elles nous répéteront qu'elles sont des princesses et qu'on n'en veut qu'à leurs fesses. Déjà inondées, elles rugiront. Et nous, passant à trépas l'amour en calice, abandonnant nos vies aux délices du noyer, pervertis par l'apnée, nous connaîtrons le malheur de confondre leurs cris avec ceux du cœur. Il est 8h et je suis saoule. Je sens son regard, ou plutôt son métier à tisser. Elle coconne, enfilant son linon autour de nous. Des lambeaux surnagent dans mon verre, Rageusement, je jette un billet sur la table en remballant mon cahier et mes pages éparses. Poursuivi par la grimace de déception entrevue en glissant sur son visage, je pars le long des quais, accroché sous des boires au fronton de mon marais en ruine. C'est idiot, durant cette période, les femmes mûres m'irritent. Certaines me donnent l'impression de s'agripper aux derniers lambeaux de leurs exigences installées. Elles constatent aigries qu'elles ont enterré leurs illusions bien au-delà de la distance qu'elles sont disposées à parcourir pour les rejoindre. Ou vivre pour prolonger mon sursis. Dans les semaines qui suivent, je tente de séduire quelques jolies chimères plus baroudeuses que passionnées. Elles m'apprennent gentiment que je suis en transit entre deux mondes, chevauchant mon âge, m'éloignant sans retour de ces regards magnifiques, encore ma famille il y a peu. J'avais oublié une évidence. Elle m'assaille, implacable. Mon regard, le leur, premier vecteur de transmission de nos attirances, n'est pas seulement cet orviétant vivifiant qui me nourrissait depuis tant d'années, mais aussi cet intraitable outil qui permet aux jeunes femelles de l'espèce d'identifier chez le mâle les signes pertinents du choix reproducteur. Et parmi eux, je dois intégrer la ride, elle est très tombante. Ces affaissements dont l'étalage obligeait me relèguent peu à peu à la périphérie du territoire. Libre à moi de m'interroger sur la prolongation toujours possible de l'illusion de plaire, en utilisant, comme certains de mes frères, d'autres codes extérieurs de richesse. Fuyant des lagons devenus glaciaires, je reviens en France. Ce jour d'automne où je foule les pavés du Châtelet, Pagny chante. Quand il n'y a plus de repères, Châtelet, la fin du voyage, c'est pas ici Tahiti, mais c'est toujours mieux que rien. Je loue un ancien atelier d'artiste dans le quartier du Cirque d'hiver. Le propriétaire, Marc, s'en sert comme pied-à-terre. Il vit au Québec. Nous sommes devenus amis. Plus de 5 années s'écoulent. Il ne se passe rien. Juste une tranche de vie à travailler. Internet, la finance, c'est l'époque. Seul, temple famille éclaté. Là, de butiner d'échec en échec, sans me presser, je laisse s'éteindre les derniers roucoulements de mon petit monstre. Mon regard se meurt, enfin. Il se meurt à quelques souffles d'un choc unique et prolongé, un choc qui prend naissance dans la rue, aux terrasses, au cours de centaines de face-à-face quotidiens qui pour beaucoup convergent et s'engouffrent, presque résignés, dans une de ces bouches noires qui s'ouvrent dans le sol, le royaume des regards en croisière. Je résiste. Toutes ces années, j'ai résisté. Phobie du métro. Tout sauf cet enfer souterrain où, je le pressens, mon petit monstre m'attire. Note du 23 octobre, 1h14. Oui, c'est ça. Écrire ça maintenant, c'est facile. C'est comme refaire l'histoire. Tu te l'arranges comme tu veux. En vrai, tu ne croyais plus en rien et tu tentes ça comme autre chose. Bah, après tout, quelle importance. Faut bien un scénario. C'est pas mal, le coup de romancer finalement. Ça donne du sens, de l'élan. On y croirait presque. En tout cas, moi, j'y crois. Demain, j'arrête de boire, encore. 45 ans, why not? Puis un jour, pourquoi? Peut-être l'envie d'écouter à nouveau cette chanson de Pagny. Je découvre son clip, Châtelet-Léal. Nu, évident, l'eau qui jaillit sous les voûtes, déferle sur les voies, envahit les tunnels en torrent rugissant. Et sème en moi le désir d'y revenir à ce défi. Pourquoi résister? Pourquoi ignorer l'évidence? Allez Antoine, rejoins l'Eldorado. Là-bas, chaque minute, s'embrassent d'innombrables regards qui affluent, se croisent, s'assoient, tentent de briser l'errance anonyme, se cherchent, s'évitent, et parfois s'accordent pour s'adonner en secret à la dégustation jubilatoire et silencieuse du fruit interdit. Alors peut-être, enfin. Antoine retourna le carnet à 7 pages. Puis héla Jacques pour lui commander un dernier café. Un croissant et un verre d'eau. Celui-ci les apporta bientôt en sifflotant. « Et voilà, monsieur. Ça va, la lecture? Vous voulez le journal ?»« Non, pas ce matin, merci. »« Ok, pas de souci. Il est là, en tout cas. » Jacques s'éclipsa. « Cette foutue chimère m'a repris en otage, » pensa-t-il. « Elle est en embuscade, tout le temps. Aujourd'hui, c'est ta solitude qui la nourrit. » Il eut une hésitation avant de tourner la page suivante. Et si cette histoire de regard me sauvait, plutôt, se dit-il. Depuis 3 mois, station après station, au Burin, j'ai donc attaqué mon champ du cygne. Nouvelle cantine aussi. Vers 9h, je prends maintenant mon café boulevard du Temple. Ma bande s'est constituée. Il y a Fille du Calvaire. Elle est devenue mon entrée du Temple, ma compagne de communion. Et puis le kiosque avec Mohamar, enfin le Baricou et Jacques. Oh, lui, je sais, ça ne durera pas. Dans les bars parisiens, on fait son temps. Faire son temps est une notion intuitive que j'ai rencontrée ici plus qu'ailleurs. Je suis parvenue à l'estimer. Le scénario se déroule entre le 7e et le 100e jour. À partir du 8e, le passage de la semaine, insensiblement, vous glissez du statut client occasionnel vers le statut potentiellement fidèle. Le sourire, les bonjours, les tons dérivent lentement vers un soupçon d'abandon. La suite varie selon la personnalité des patrons ou des serveurs. Mais le permis de séjour en règle est accordé après un délai moyen de 20 jours. Vient la période des tests. Vous travaillez dans le coin? Vous avez vu le PSG hier soir? Je ne sais pas pour vous, mais moi je préfère ne pas jouer aux courses. Et tous ces leurres conversationnelles destinées aussi à prendre au métier ce qu'ils possèdent, tout compte fait, de plus plaisant. Aux alentours du 50e jour, une convivialité de type plus familial s'installe. Reconnu, intégré, utile à l'ambiance et au commerce, une terrasse vide n'attire personne, vous pesez X euros par semaine. Vous êtes chez vous. Vous vous sentez bien, ce bar devient votre cantine, un havre de notoriété dans un océan d'anonymat. Il reste 150 jours de bonheur. J'ai rarement dépassé cette limite sans être confronté à la corrosion qui progresse. Malgré la vigilance, ce succès d'année de famille s'érode sous l'effet d'une intimité familière que personne n'a demandée. Une commande qui traîne, parfois oubliée, un café repassé, une remarque déplacée, un plat raté qu'on ne remplace pas, un bonjour sans réponse. Les 200 jours approchent, vous faites partie des meubles. Il sera bientôt temps de changer. Si l'esprit humain avait une révolution à mener, ce serait celle-ci finalement. Apprendre à durer sans vulgariser, me dis-je en aspirant la dernière goutte de café, un peu tiède, sur le bord de la tasse. Au Baricou, la petite équipe tient le choc, sous la férule souriante d'une patronne qui semble connaître la moitié du quartier. Jacques, le serveur à l'humour arithmétique, m'a pris à la bonne. Moi aussi j'ai calculé. Ici, je dispose encore de 100 jours de bonheur. Je dépose ma tasse vide au milieu de la soucoupe et la monnaie sur le zinc. J'affectionne ces deux bruits. Personne ne les associe de la même manière. Certains glissent la tasse à côté, d'autres la laissent tomber sèchement, pendant qu'ils jettent leurs pieds sur le métal ou préfèrent le creux de la main du serveur. Moi, j'aime aligner l'objet à l'aplomb du centre précis de la soucoupe, la descendre lentement et faire entrer en contact les deux porcelaines avec un bref tintement. Trop vite ou pas assez, et la sonorité se gâche. Ça dépend aussi de l'ambiance, de l'heure. Tôt le matin, c'est parfait. Ensuite, si je n'ai qu'un billet en poche, je suis malheureux, car j'adore prendre les pièces dues l'une après l'autre entre le pouce et l'index et les faire claquer sur le comptoir. Et ma journée peut commencer. C'est curieux, me dis-je en quittant le Baricou chaque matin après avoir salué Jacques. Tous ces foutus rituels avant d'habiter ici, je n'en avais strictement rien à cirer. C'est quoi ça? L'âge? La pression de cette ville? La recherche d'un sens ou une névrose qui germe? Note du 28 octobre, 2h45. C'est reparti. Pas de rendez-vous avant 14h. Tout à l'heure, je descendrai les marches et je l'honorerai encore, mon vieux Paris rénové. Mon petit bonheur, ma conquête. L'écriture s'arrêtait là, toute proche. Antoine referma le carnet, le rangea, avala d'un trait son café un peu froid et vérifia l'heure en adressant un signe à Jacques. Celui-ci acquiesça, il porterait ça sur la note. Antoine s'éloigna vers le kiosque et prit livraison du supplément week-end en remerciant Mohamar. Il hésita un peu, campé sur le bord du trottoir. « Bien sûr, tout n'a pas été aussi inconscient, se disait-il. Ne fais pas l'hypocrite. » Mais entre savoir et s'avouer. À travers les détours du carnet, redécouvrir sa propre histoire, nue, sous cet éclairage, l'abandonner, dans un état mental un peu flou, un peu moche, où trânait de vagues engouements pour d'autres issues. Si j'avais su, si j'avais voulu, si j'avais fait l'effort de...
Et si je marchais pour une fois? Mais non, que tu es con.
Il traversa le boulevard et s'engouffra dans la station.